Dans l'Épître aux Hébreux, nous allons regarder le verset 1 et la moitié du verset 2 ce matin. On ne le verra pas en creusant, on va aller voir dans un autre passage, dans le livre, dans l'Évangile de Matthieu. Mais bon, c'est une introduction à ce message ce matin. Et ça me bénit aussi parce que on parle de l'Église persécutée aujourd'hui. Et l'Épître aux Hébreux a été écrite à des chrétiens qui ont été persécutés à deux reprises, soit en 49 et en l'an 60. En l'an 60, particulièrement, non seulement par des Juifs extrémistes, mais aussi par ce qu'on appelait l'empereur fou Néron. Et ils étaient découragés. Ils se demandaient même, à travers toutes ces persécutions, si l'Église résisterait, si l'Église continuerait d'exister. Et on appelle ça une épître, mais finalement, c'est pas vraiment une épître. Vous n'avez pas une introduction en bonne et due forme comme les autres épîtres. C'est plutôt un message d'exhortation qui est envoyé aux différents chrétiens. Ce sont des Juifs qui se sont convertis et qui souffrent. Et l'auteur va s'appliquer à leur rappeler, à les exhorter, à les encourager à travers toute l'Épître, mais surtout à leur rappeler que ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, eh bien, ça s'est réalisé, ça s'est accompli à travers la personne de Jésus-Christ. Et Adam Clark, qui est un commentateur fort bien connu, était fort bien connu parce que ça date d'il y a plus de 150 ans, disait qu'on ne peut pas comprendre l'Ancien Testament si on ne comprend pas finalement l'Épître aux Hébreux. Il dit que l'Épître aux Hébreux nous dévoile, met en lumière finalement des choses qu'on ne comprenait pas dans l'Ancien Testament. Et je lui donne raison, je dis pas qu'il y a tort, mais c'est vrai que l'Épître aux Hébreux, si vous y pensez, on commence à plonger nos yeux dans l'Épître aux Hébreux, on est souvent porté à abandonner. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de l'Ancien Testament, on fait des parallèles entre l'Ancien et le Nouveau. Et souvent, quand on parle des frères et sœurs en Christ, c'est souvent l'Épître qui est lu le moins souvent à travers toutes les autres épîtres que le Seigneur nous a laissées dans sa parole. Et ici, au chapitre 1, verset 1, il est écrit que l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que maintenant, Dieu parle par son Fils. Si les hommes n'écoutent pas le Fils, ils ne peuvent pas et ils n'entendront pas ce que Dieu dit. Plusieurs rejettent le Seigneur Jésus, et ce faisant, ils rejettent aussi également Dieu. C'est seulement à travers le Seigneur Jésus que nous pouvons connaître Dieu et entendre Dieu nous parler. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier encore une fois, Seigneur, pour cette épître, Seigneur, qui nous rappelle que, Seigneur, tu es un Dieu qui parle. Donc, Seigneur, tu n'es pas une religion, Seigneur, tu n'es pas une sorte de philosophie, tu n'es pas une façon de vivre, mais, Seigneur, tu es une personne parce que tu parles. Et, Seigneur, ce matin, nous avons aussi l'assurance, depuis le début de cette réunion, que ton esprit veut parler à ton peuple. Seigneur, nous voulons ouvrir les oreilles de notre cœur, afin que, Seigneur, nous puissions recevoir de toi ce que tu as réservé pour chacun. Et particulièrement, nous voulons avoir une pensée pour nos frères et sœurs qui sont persécutés, afin que, contrairement aux Hébreux, Seigneur, aux chrétiens hébreux, ils ne puissent jamais douter, Seigneur, que peu importe le dictateur qui dirige un pays, que celui-ci aura la capacité d'effacer ton Église sur la terre. Parce que tu nous as promis, Seigneur, que le ciel et la terre passeront, et que ta parole, Seigneur, elle traversera, transcendra cette terre pour rester pour l'éternité, et tu as aussi mentionné ton Église. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour l'œuvre que tu vas accomplir dans chacune de nos vies ce matin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Bon, le titre de mon message, c'est « Dieu a parlé et il continue à nous parler ». Vous êtes amen à ça ce matin? J'espère que Dieu vous parle ce matin, j'espère que Dieu vous a parlé tout au long de cette semaine, et j'espère que Dieu vous a parlé depuis que vous l'avez rencontré. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui prend plaisir à rester silencieux, Dieu est un Dieu qui prend plaisir à parler avec sa créature, une créature qui est privilégiée. L'homme et la femme sont les seules créatures sur la terre qui possèdent un esprit, et on peut entrer en communion avec notre Dieu créateur. Dès le premier livre de la Bible, au troisième verset du chapitre 1, verset 3, il est dit, « Dieu dit que la lumière soit. » Dieu, dès le début de sa parole, il parle. Il parle aussi avec Adam et Ève. Et même lors de la chute, il va aller les trouver pour essayer non pas de les condamner, mais moi, je vois à travers les paroles du Seigneur cette approche encore, et cette approche pour permettre à l'homme de pouvoir se repentir de son péché, quoi. Il n'y a pas de sentiment de condamnation dans le cœur de Dieu. Dieu lui a dit, écoute, si tu obéis, voici. Si tu désobéis, voici les conséquences. Et Dieu, l'homme entend le Seigneur se promener dans le jardin, il se cache. Il est honteux à cause de son péché. Et pourtant, on voit Dieu qui ne vient pas avec un bâton de baseball pour frapper ni Adam ni Ève, mais qui vient les voir simplement pour permettre à l'homme de se repentir. Et on sait que tant et aussi longtemps qu'on ne rencontre pas le Seigneur, on est tous animés du syndrome d'Adam. Il a demandé à Adam, oui, puis Adam dit, c'est pas moi, c'est la faute de Ève. Et Ève a dit, mais c'est pas moi, c'est à cause du serpent que t'as donné. Finalement, qui passe pour l'imbécile là-dedans, c'est Dieu, quoi. Hein? Adam dit à Dieu, si tu n'avais pas créé Ève, j'aurais jamais tombé. Puis Ève a dit, si tu n'avais pas créé de péché, le serpent, je ne serais pas tombé non plus, quoi. Et on a tous ce syndrome-là. Hein? Je me souviens quand j'étais petit garçon, on faisait, les parents partaient et on faisait un mauvais coup, quoi, où on avait brisé quelque chose. On essayait de le réparer pour pas que ça paraisse qu'il était brisé. Et quand la mère rentrait, ben, elle disait, bon, ben, qui a brisé le vase? Ah, c'est pas moi. Ah, on était 8 enfants, mais on trouvait le moyen de pointer toujours vers l'autre, quoi. Ça, c'est le syndrome d'Adam, quoi. Et c'est une guérison que le Seigneur opère en nous, quoi. Hein? Ouais. Et Dieu parle. Genèse chapitre 1, verset 3, Dieu parle à sa créature, Dieu parle à Adam et Ève, et Dieu va même parler à Caïn, quoi. Le péché comme un monstre tapis à ta porte, il cherche à te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Tu as encore cette liberté de dire non. Dieu parle, et Dieu encore aujourd'hui veut parler. Parler non seulement à son Église, mais à ceux qui ne le connaissent pas. Et les premiers mots de la Bible nous disent que Dieu parle. Et dans les premiers, versets de l'Épître aux Hébreux, l'auteur n'est pas juste en train de nous dire que Dieu parle, mais lorsqu'il parle, il est en train de nous dire quelque chose. Vous savez déjà, il y a une expression au Québec qu'on dit, quand on a écouté quelqu'un parler, on dit, lui, il parle sans rien dire. Ça vous est déjà arrivé? On dit ça, ici en Belgique aussi? Oui. Vous écoutez parler pendant quelqu'un pendant 15 minutes, et finalement, vous dites, ben lui, il parle, quand il parle, c'est pour rien dire. Ça veut dire que ce qu'il dit, ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Ça se dit, ça, ici? Oui. OK. Bon. Mais lorsque Dieu parle, il est en train de nous dire quelque chose. Dieu ne dit pas des choses pour rien. Les paroles que Dieu exprime, qui sortent de la bouche de Dieu, ont toujours une portée éternelle. La Bible, c'est le livre qui contient la parole que Dieu veut nous adresser. Et dans ce livre, Dieu nous a parlé, et Dieu autrefois nous a parlé, pardon, et Dieu continue à vouloir nous parler. L'auteur dit, après avoir autrefois, plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par son Fils. Ce matin, j'avais le choix, je pouvais prendre 20 minutes pour parler, d'abord, pour vous expliquer comment Dieu avait parlé à nos pères. J'avais pu prendre 20 minutes pour parler aussi, vous expliquer comment Dieu avait parlé aux prophètes. Mais ce matin, j'aimerais prendre du temps pour m'arrêter sur Dieu qui a parlé à son Fils. Parce que Jésus est toujours vivant, et Jésus veut parler aussi à ceux qui lui appartiennent. J'ai déjà rencontré... Oui, lorsque Dieu parle, pardon, il ne se contente pas seulement d'émettre des sons. Lorsqu'il parle, ses paroles sont de la plus haute importance parce qu'il est en train de dire quelque chose que nous avons besoin d'entendre. Lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit ici que Dieu parle, il veut non seulement soulever le fait que Dieu parle, mais il veut mettre aussi l'emphase sur ce qu'il dit. Et Jésus est venu parler aux hommes pour leur faire connaître le Père et les réconcilier avec lui. Lorsque vous lisez les chapitres 5, 6 et 7 dans l'Évangile de Matthieu, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Matthieu. Ce que je voulais vous dire sur les pères et sur les prophètes ce matin, vous allez le retrouver sur le site Internet de l'Église. Mais on va s'arrêter vraiment aux paroles que Jésus a dites. Et lorsqu'on regarde les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile de Matthieu, vous êtes en train de lire le sermon le plus connu de tous les temps qu'on a appelé le sermon sur la montagne. Il a touché, frères et sœurs, le cœur, et il a transformé le cœur des hommes et des femmes qui l'ont non seulement lu, comme aucun autre sermon l'a jamais fait, et il a eu en retour inspiré, je dirais qu'il a inspiré un nombre incalculable de personnes qui ont composé, qui ont fait des sermons sur le sermon sur la montagne. Il est écrit ici, 5, verset 1. « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, un endroit où il y avait de la place pour recevoir tous ceux qui voulaient l'entendre. Peu importe la classe sociale à laquelle il appartenait, Dieu ne fait pas de favoritisme. Après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui et il va ouvrir la bouche pour les enseigner. » Oh, frères et sœurs, est-ce que c'est pas merveilleux quand Jésus ouvre la bouche pour nous enseigner? On sait qu'il n'est pas comme les hommes, qu'il n'est pas menteur. On sait qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui parle, c'est le Seigneur du ciel et de la terre, le Créateur de toutes choses, qui en tant que tel a le droit de disposer de toutes ses créatures comme bon lui semble, puisqu'il est celui qui gouverne tout l'univers et qui possède un royaume qui est éternel. Il est non seulement celui qui a donné la loi, mais qui se charge de la faire respecter. Il est donc capable de sauver et de détruire, puisqu'il a le pouvoir de faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne, nous dit la parole. Il est la sagesse éternelle du Père, celui qui sait de quoi nous sommes faits et qui nous comprend parfaitement. Il est celui qui sait comment nous devons vivre notre relation avec Dieu et avec notre prochain, et par conséquent, sait comment adapter chacune des lois qu'il a prescrites à toutes les circonstances de notre vie. Et frères et sœurs, c'est vrai qu'on est béni, on vit dans le monde occidental, on vit la plupart des pays avec cette grande liberté de pouvoir nous rencontrer dimanche après dimanche. Mais quand vous voyez l'évolution du monde, frères et sœurs, ça peut être pour un temps qu'on ait encore l'occasion de se réunir en toute liberté dans nos églises. Prions pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Prions aussi pour que Dieu puisse garder le plus longtemps possible cette liberté qu'on a de pouvoir se réunir jour après jour. Je disais mercredi, et ça tombe bien avec la persécution d'aujourd'hui, on lit les évangiles, on lit la parole de Dieu, on regarde l'apôtre Paul qui est poursuivi par des fanatiques religieux, on regarde Jésus-Christ qui prêche, qui à un moment donné doit partir, et on dit ben, qu'ils ne l'ont pas attrapé parce que son temps n'était pas venu. Écoutez, nous on lit ça souvent, on n'a pas les sentiments, on est déconnecté souvent de la réalité, on recule 2000 ans en arrière. Mes frères et sœurs, quand vous regardez à la télévision, si on avait eu des caméras qui auraient pu filmer ce que Paul vivait, ce que Jésus vivait, ce que les apôtres ont vécu à leur époque, si on avait des caméras qui auraient pu garder, filmer ce qu'ils ont vécu, eh bien, ça correspond souvent à ce qu'on voit déferler dans nos journaux lorsque des fanatiques religieux, des groupes, poursuivent quelqu'un pour le lapider, pour le tuer, pour le brûler. Eh bien, ça, c'est les fanatiques religieux, c'est exactement ce que Jésus et Paul ont rencontré. C'est exactement ce que les apôtres ont vécu. C'est exactement ce que les gens, les chrétiens de l'Épître aux Hébreux ont vécu aussi. Et frères et sœurs, on n'a pas affronté ça aujourd'hui. Et un jour, Dieu peut-être mettra à rude épreuve notre foi face à ce fanatisme religieux qui grandit de plus en plus dans le monde, malheureusement. Jésus est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Il est celui dont Dieu avait déclaré longtemps d'avance, « Si quelqu'un n'écoute pas les paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. » Dans Deutéronome 19, déjà, Dieu parlait qu'envers un prophète, à Moïse, et c'était ce Jésus. Et ou qu'encore, comme l'a dit si bien l'apôtre Paul, « Quiconque n'écoutera pas les paroles de ce prophète qui est Jésus sera exterminé du milieu du peuple. » Frères et sœurs, à partir du caractère de celui qui parle, nous sommes certains qu'il a annoncé pleinement et parfaitement la volonté de Dieu. Il n'a pas prononcé un seul mot inutile. Il n'a rien dit de plus, il n'a rien dit de moins que ce qu'il avait reçu de son bon Père céleste. Il n'a pas fui pour transmettre tout le conseil de Dieu et il n'a prononcé aucune parole qui était contraire à la volonté de celui qui l'a envoyé. Toutes ces paroles sont vraies et justes. Et elles sont appelées à demeurer éternellement, même lorsque le ciel et la terre disparaîtront. Il a pris soin non seulement de réfuter les erreurs des scribes et des pharisiens de son époque, qui étaient alors ces faux prophètes, hein, mentionnés dans Matthieu chapitre 7, verset 5, ces faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, mais qui au-dedans sont des loups féroces. Mais il a promis, ce Jésus, que les paroles qu'il a prononcées ce jour-là soient écrites afin de permettre que les chrétiens puissent de tout temps discerner ce qui vient de lui et à rejeter tous ceux qui pourraient pervertir la parole de Dieu. Ce jour-là, il n'a pas seulement enseigné le chemin qui mène à Dieu, à cette foule qui se trouvait avec lui sur la montagne, mais à tous les êtres humains, à tous ceux qui n'étaient pas encore nés, à toutes les générations à venir qui entendraient ces paroles de leur vivant, et ce jusqu'à la fin du monde. Et on peut observer ici de quelle manière le Seigneur va non seulement enseigner, comme il l'a toujours fait d'ailleurs, mais particulièrement à cette occasion, il va parler comme jamais personne n'a parlé. Non pas comme les prophètes d'autrefois, quoique eux aussi ont parlé de la part de Dieu alors qu'ils étaient dirigés par le Saint-Esprit, ni comme Pierre, ni comme Jacques, ni comme Jean, ni comme Paul, qui vont bâtir avec une grande sagesse son Église, mais il va parler comme Dieu parle. Dieu parle à travers Jésus-Christ. C'est Dieu qui se fait homme à travers Jésus-Christ, qui se met au même niveau que sa créature. Dieu est esprit, on peut pas le voir, mais en Jésus-Christ. Jésus dit, « Celui qui m'a vu a vu aussi le Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Et Dieu vient dans la personne de Jésus et il vient nous parler face à face. Et il vient surtout nous parler cœur à cœur. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut changer, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme qui est tortué par-dessus tout. Même nous ne le connaissons pas vraiment notre propre cœur. Mais Dieu le connaît, lui, parfaitement. Et il ne veut pas faire une réforme du cœur, il veut le transformer. Il veut nous donner un nouveau cœur qui sera capable de penser comme lui, qui sera capable de parler comme lui, qui sera capable d'agir comme Jésus-Christ a agi. Parce que finalement, ce que Dieu vise, c'est de faire en sorte qu'on ressemble à la personne de Jésus-Christ. Il dit « Amen » à ça. Remarquez avec quel amour incroyable Jésus va révéler ici la volonté de son Père aux êtres humains. Cette fois-ci, c'est pas sur la montagne du Sinaï qu'il va en amener les gens pour l'entendre, parce que ce n'est pas sur des tables de pierre qu'il veut graver sa parole, mais dans le cœur d'un homme. Et les premiers mots qu'il va dire, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit ». C'est-à-dire ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes. Heureux les affligés, c'est-à-dire ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, c'est-à-dire ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de vivre comme Dieu le veut. Heureux les miséricordieux, ceux qui ont de la compassion pour les autres. Heureux ceux qui ont un cœur pur. Là, il y a une belle promesse qui est accomplie aussi, qui est accompagnée, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent ou créent la paix autour d'eux. Heureux ceux qui sont persécutés parce qu'ils agissent comme Dieu le demande. Heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent, vous et disent faussement toutes sortes de mal contre vous parce que vous croyez en moi. Les frères et sœurs, des fois, on mange de belles gifles. On reçoit de belles gifles quand on va témoigner à l'extérieur, hein, quand on fait du porte-à-porte, quand on rencontre les gens dans la rue et qu'on leur parle du Seigneur Jésus. Et il nous arrive de revenir piteux. Il nous arrive de se poser des questions. Qu'est-ce qu'on a fait de bien? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de bien? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Et pourtant, le Seigneur ici nous dit, heureux êtes-vous si les hommes vous insultent, vous persécutent et disent faussement toutes sortes de mal contre vous. La seule raison, parce que vous croyez en moi. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu avant vous. Frères et sœurs, le Fils de Dieu qui est venu du ciel nous montre ici le chemin qui conduit au ciel. Là, il est en train de nous préparer une place. Il nous enseigne la vérité qui donne la vie éternelle et qui conduit au royaume. Et il nous montre le seul vrai chemin qui mène à la vie éternelle. Et nous avons besoin de prendre note. Les deux versets qui complètent le chapitre 7 de Matthieu, versets 28 et verset 29. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. Maintenant, en quoi consistait son enseignement? Dieu envoie Jésus-Christ, Dieu parle à travers Jésus. De quoi va-t-il parler dans ce sermon? Eh bien, ce matin, rapidement, j'ai essayé de répondre à ces deux questions. Pour commencer, simplement regarder le thème de son sermon. Dans Matthieu chapitre 3, versets 1 à 3, nous avons un aperçu de la prédication de Jean-Baptiste. qui a été envoyé pour préparer le chemin du Seigneur, et le sujet qui revenait constamment dans la prédication de Jean-Baptiste, c'était le royaume de Dieu. Et dans Matthieu 4, nous lisons au commencement, qu'au commencement du ministère de Jésus, après qu'il eut été tenté dans le désert, il a prêché un sermon qui ressemblait à celui de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 23. Sa prédication à Galilée se rapportait à l'évangile du royaume. Jésus n'a pas commencé à dire « Croyez en moi, vous serez sauvés ». Le premier sermon qu'il a dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. » Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je suis convaincu que la repentance, elle est essentielle au salut. Acte chapitre 3, verset 19. « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et ici, il continue. Et le royaume dont Jésus parlait, c'était le royaume des cieux. Voilà quel était le thème du message de Jésus. Quel est maintenant le contenu de son message? Eh bien, il parle des citoyens du royaume. Chapitre 5, verset 3 à 16. Dans Matthieu chapitre 5, les versets 3 à 12, il énumère le caractère et la bénédiction des citoyens du royaume des cieux. C'est-à-dire ici qu'il est en train d'énumérer les traits de caractère que nous devons retrouver chez ceux qui sont citoyens de ce royaume et aussi des bénédictions qui les accompagnent. Souvent, quand on parle de l'unité de tous les croyants, on prend finalement le passage du sermon sur la montagne. Mais ce qu'on oublie, et ça c'est l'écuménisme, ce qu'on oublie, c'est qu'on ne peut pas mettre en pratique le sermon sur la montagne si on n'est pas né de nouveau. Alors c'est une illusion de penser qu'on peut regrouper toutes les églises qui se disent chrétiennes autour du sermon sur la montagne quand on oublie que pour être capable de mettre en pratique le sermon sur la montagne, il faut être né de nouveau. Et Jésus ici va dire dans Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16, il va décrire leur relation avec le monde qui les entoure, c'est-à-dire ceux qui lui appartiennent. Ils sont le sel de la terre et la lumière du monde, dit-il. Puis il parle, comment doivent vivre ceux qui font partie de ce royaume? Versets 17 à 48. On n'ira pas tous les versets, mais vous les regarderez à la maison, mais simplement, juste brosser un tableau de ce que Jésus peut nous annoncer à travers le sermon sur la montagne. Dans les versets 17 à 48. Il va apporter une interprétation et une application différente de la loi que celle que donnaient les scribes et les pharisiens. Jésus va dire qu'il n'est pas venu pour abolir la loi ou les prophètes, mais qu'il est venu pour l'accomplir. Il rappelle qu'il n'y a rien dans la loi qui doit disparaître jusqu'à ce que tout soit accompli et que ceux qui violent ou désobéissent à l'enseignement de la loi seront appelés les plus petits dans le royaume des cieux. Il rappelle que la manière de vivre que Dieu demande aux citoyens du royaume doit dépasser la manière de vivre des scribes et des pharisiens. Frères et sœurs, si quelqu'un n'est pas passé par la nouvelle naissance, il lui est impossible de vivre autrement que ce que les scribes et les pharisiens vivaient, c'est-à-dire vivre selon les apparences, vivre une religion et non pas une relation. La nouvelle naissance, elle nous ouvre les portes du royaume de Dieu. Et elle nous permet de vivre, en tout cas de commencer à vivre, comme Dieu nous le demande. Quelle est la différence? C'est que celui qui est passé par une nouvelle naissance reçoit l'Esprit de Dieu. C'est un miracle qui se produit. On ne le voit pas, mais c'est un miracle qui se produit. Il y a un changement qui bouleverse nos vies. Nos yeux sont différents, on voit le monde différemment. On parle d'une façon différente et on agit d'une façon différente parce que l'Esprit de Christ habite maintenant dans le cœur de ceux qui sont nés de nouveau. Et là, Jésus va toucher vraiment au cœur de son message. Les pharisiens et les scribes, il les traite d'hypocrites. Il leur dit que ce sont des gens qui vivent selon les apparences. Et là, Jésus, par rapport à la loi, il va venir viser le cœur des gens. C'est le cœur que le Seigneur vise. Et ce matin, même à travers son message, à travers tout ce que nous avons entendu, c'est encore notre cœur que le Seigneur vise. Ce que le Seigneur veut, c'est que nos cœurs soient transformés. C'est que nos cœurs soient bouleversés pour faire en sorte qu'on soit envahi par la compassion et l'amour que Christ avait pour les perdus. C'est de faire en sorte qu'on puisse mettre en pratique cette parole de Jésus qui disait « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et ça touche les deux commandements qu'il nous a donnés. Aimez Dieu de tout votre cœur, aime ton prochain comme toi-même. Mais sans passer par cette nouvelle naissance, il est impossible de réaliser ces deux commandements. Parce que c'est Christ habitant en nous qui nous donne cette capacité de pouvoir aimer Dieu comme il demande d'être aimé et d'aimer nos semblables comme Christ nous a aimés. Et ici, il dit, pour être certain d'être bien compris par ceux qui l'écoutent, il va illustrer le tout par une série de contrastes en ce qui les concerne. Les versets 21 et 22, il dit quoi? Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. » Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni dans le feu de la Géhenne. Il est en train de parler aux scribes, aux pharisiens, il est en train de dire « Vous qui vivez selon les apparences, la seule façon... » Pardon. Il est écrit que quand tu tues quelqu'un, il mérite aussi la mort. Ça, c'est les apparences. On ne peut pas s'en sauver. Quelqu'un l'a tué, vous l'avez découvert, vous le jugez et vous le condamnez. Mais là, écoutez, il va viser le cœur. Il va dire, écoute, quand tu te mets en colère contre ton frère, que tu le traites d'insensé, tu es aussi coupable qu'un meurtrier. Parce que si tu t'endors sur ta colère, tu vas développer de la rancune, de l'amertume et tu vas vouloir te venger. Et si tu avais peut-être la certitude dans ton cœur que jamais on réussit à te prendre pour ce crime, bien tu penserais peut-être à l'acte. Et Jésus vise le cœur ici. Versets 27 à 30, qu'est-ce qu'il dit à propos? Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il est en train de dire quoi aux scribes et aux pharisiens? Vous qui vous promenez avec vos belles robes, avec tous vos ornements qui sont accrochés après vos robes, eh bien, vous vous vantez d'être des gens fidèles. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre cœur quand vous voyez une belle femme? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur quand vous voyez une autre femme que la vôtre? Le simple fait de la désirer. Ah, c'est ce qu'il dit ici, hein? Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Il revient encore une fois avec le cœur. Écoute, arrête de te pavoiser que tu n'as jamais trompé ta femme. Si dans ton cœur, tu as convoité la femme d'un autre, dans ton cœur, tu es aussi coupable que celui qui a couché avec la femme d'un autre. Les pharisiens, les scribes marchaient selon les apparences. Les religieux dans les églises fonctionnent selon les apparences. Ce n'est pas le jugement de Dieu qui leur fait peur. C'est le regard des hommes et des femmes qui leur font peur. Et Jésus ramène les choses dans son juste milieu. Le cœur, la condition de ton cœur. Car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à commettre l'adultère, à tuer, à mentir. Et le reste, le cœur. Voilà pourquoi Dieu a besoin de nous donner un cœur nouveau. Voilà pourquoi le message de Jésus, le sermon sur la montagne, est tellement important pour l'Église. C'est aussi un test pour nous. Verset 31-32, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Et encore une fois, il vise le cœur. Hein? Ces vieux scribes, ces vieux pharisiens, qui étaient mariés, et qui trouvaient une jeune fille, jolie, belle, désirable, eh bien, ils prenaient plaisir à signer des lettres de divorce pour être capable de marier ces jeunes filles. Et Dieu, Jésus-Christ, ramène les choses à la bonne place. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Parce qu'il fallait voir les conséquences aussi d'une femme qui se promenait avec une, qui n'avait pas de lettre de divorce et qui avait été répudiée par son mari. Elle était passible d'être lapidée, quoi. Et Jésus ramène les choses, encore une fois, au cœur. Verset 33-37, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il est en train de leur dire ici? Ne jurez pas en vain. Verset 38 à 42. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande, et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Ça, c'est pas facile à mettre en application, frère et soeur. Quand nos droits sont brimés, quand quelqu'un nous demande la charité, quand nos droits sont brimés de façon injuste, c'est pas facile de mettre ça en application. Quand on nous frappe, quand on nous frappe sur la joue droite, être capable de présenter l'autre. Souvent, avant de présenter l'autre, on présente le point gauche plutôt que de montrer la joue gauche. C'est toute une leçon de vie que Jésus est en train de montrer ici aux scribes et aux pharisiens. Mais c'est aussi ce qu'il nous enseigne ce matin, que ceux qui sont nés de nouveau sont capables de mettre en application cet enseignement. Il continue ici, versets 43-47. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et regardez ce qu'il dit. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants comme sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les païens font la même chose. Mon frère, ma sœur, quand tu invites quelqu'un à manger chez toi, est-ce que tu l'invites dans le but qu'il te rende l'appareil en retour? Ou si tu invites quelqu'un parce que ça te fait plaisir de le rencontrer, parce que ça te fait plaisir de le connaître, parce que tu veux entendre son témoignage, ce que Jésus fait dans sa vie. Sinon, Jésus dit, écoute, tu fais la même chose que les païens, quoi. Les païens, ils n'invitent pas les gens pour rien. Il n'y a rien pour rien dans le monde. C'est donnant-donnant dans le monde. Mais il ne doit pas en être ainsi pour ceux qui m'appartiennent. Pour chaque cas qu'il va mentionner dans ce verset, son enseignement sera conforme pourtant avec celui de la loi, mais pas nécessairement avec l'interprétation et l'application qu'en faisaient les scribes et les pharisiens. Il ajoute qu'à chaque fois que nous agissons ici, verset 48, nous sommes parfaits comme notre Père céleste est parfait. Et être parfait comme notre Père céleste est parfait, dans le Nouveau Testament, ça correspond à la parole de Dieu qui dit « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel. » Jésus va condamner le formalisme religieux qui cherche à recevoir les louanges des hommes et non pas celles de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, les versets 1 à 34, c'est ce qu'il fait. Dans les chapitre 7, versets 1 à 12, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il dit. « Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. » Frères et sœurs, Dieu rappelle au prophète Samuel. Les hommes regardent aux apparences, c'est-à-dire à ce qui frappe les yeux. Mais moi, je regarde au cœur. Alors Jésus va leur dire, chapitre 6, les versets 2 à 4, on ne le lira pas, mais je vais vous donner ce que ça veut dire. Examinez les motifs qui vous poussent à venir en aide aux pauvres. Dans le chapitre 6, les versets 5 à 15, il va dire, examinez les motifs qui vous poussent à prier. Dans le chapitre 6, versets 16 à 18, il va dire, examinez les motifs qui vous poussent à jeûner. Dans les versets 19 à 24, il va dire, examinez les motifs qui vous poussent à travailler et à amasser avec autant d'acharnement. Dans Matthieu chapitre 7, les versets 1 à 6, il va dire, examinez les raisons qui vous poussent à parler des autres, à parler contre les autres et à juger. Dans Matthieu chapitre 7, les versets 7 à 11, il va dire, faites confiance à Dieu et non pas aux hommes, et surtout pas à vous-même. Dans Matthieu chapitre 7, verset 12, il dit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse pour vous. parce que c'est le deuxième commandement. Et il y a un dicton dans le monde qui dit « Fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on fasse. » Et ça, c'est vraiment tort des Écritures. Hein? C'est facile de rien faire. Hein? Fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Mais c'est pas ce que Jésus dit. Hein? Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Ouais. Sois actif dans le royaume de Dieu. Montre que tu es un fils de ton Père et fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Amen. Jésus exhorte ses auditeurs à tout faire pour entrer dans le royaume des cieux. Matthieu, chapitre 7, les versets 13 à 24. Hey, Dieu nous parle à travers Jésus. Oh! Et Dieu vient de plein fouet nous heurter dans notre cœur. Il vient nous montrer que si on pensait qu'on n'était plus égoïste, il y a encore un fond d'égoïsme qui est dans notre cœur. Dieu veut faire le ménage. Et à travers Jésus-Christ, il vient nous parler. Il nous dit, écoute, arrête de faire pour faire. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois. Sois. Que tu retrouves cette image perdue par Adam dans le jardin. Tu renoues cette relation avec ton Créateur à travers moi. Et que ce sermon puisse devenir une réalité, ce que j'enseigne dans ce sermon puisse devenir une réalité dans ta vie. Dans Matthieu chapitre 7, les versets 13 à 14, il leur dit qu'il y a un seul chemin qui conduit dans le royaume des cieux. Appliquez-vous à trouver ce chemin, dit-il. Il est étroit. Il est difficile, et il n'y en a pas beaucoup qui le trouvent. Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20. Appliquez-vous progressivement à marcher correctement sur ce chemin. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous habillés en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il y a un message qui circule sur Internet, hein, 25 jours en enfer. Et là, les gens, il y a des gens qui pavoisent devant ce message, qui sont en extase devant ce message, parce qu'apparemment, il y a quelqu'un qui est descendu en enfer pendant 25 jours et qui a vu tout ce qui se passait, et là, qui revient pour montrer aux chrétiens ce qui peut se passer en enfer, dans le but de les effrayer pour qu'ils fassent en sorte de ne jamais y aller, quoi. Mais c'est contraire aux Écritures. Parce que les Écritures, elles nous disent qu'une fois qu'on met les pieds en enfer, on n'en ressort plus, quoi. Et je pense pas que dans le cas présent, Dieu a fait une exception. Alors, souvent, ce sont des messages qui cherchent à prendre les gens par les sentiments, et souvent ce sont des faux, ce sont des loups qui sont déguisés en brebis. Frères et sœurs, Jésus, gardons nos yeux sur les paroles que Jésus nous a données. Jésus ne nous trompera jamais. Gardons nos yeux dans la parole de Dieu. Elle est infaillible, et on sait que c'est la vérité. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 27, Jésus rappelle qu'il y a une récompense qui nous attend au bout du chemin. Elle sera accordée non pas à ceux qui disent qu'ils appartiennent au Seigneur, mais à ceux qui, dans la pratique, auront démontré qu'ils appartiennent au royaume des cieux. Et il le dit, hein, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, en terminant, si Dieu a parlé dans ces derniers temps à travers son Fils Jésus-Christ, alors nous pouvons supporter les bouleversements politiques, les conflits au Moyen-Orient, les problèmes économiques mondiaux et une multitude d'autres situations désespérantes. Si Dieu a parlé, nous pouvons alors continuer dans notre relation de foi avec Jésus-Christ et démontrer que nous vivons une relation avec lui en manifestant le caractère que doivent démontrer ceux qui disent appartenir au royaume de Dieu. Et nous rappeler en même temps les bénédictions qui nous attendent tout au long de notre pèlerinage sur la terre, et ce, malgré les persécutions, mais surtout aussi qu'il y a une récompense à venir pour ceux qui lui appartiennent. Terminer rapidement à Genèse, j'espère que vous avez trouvé le passage. Genèse chapitre 3. En lisant les premiers chapitres sur ce que Dieu a parlé, sur ce que Dieu a dit, bon, il a dit et c'est arrivé, et ainsi de suite. Je mets mes lunettes. Bon, c'est fou, le verset, c'est ça quand tu rajeunis. Mais ce qui est intéressant, ce qui m'a vraiment béni, et comme quoi on occupe une place particulière dans le cœur de Dieu, c'est que Dieu, c'est vrai qu'il a créé à partir de sa parole. Mais la seule chose qu'il n'a pas créée à partir de sa parole, c'est l'homme. Il forma l'homme. Dieu a pris ses mains, quoi. Et moi, je trouve que les mains, ça démontre un contact. Un contact qui est affectueux, quoi. Un contact qui est attachant. On touche pas à n'importe qui, quoi. Dieu, dans sa création, il a dit et c'est arrivé. Mais pour l'homme, il l'a formé à partir de la poussière, quoi. Je trouve ça magnifique, quoi. Moi, ça m'a vraiment touché. De savoir que Dieu n'a pas juste dit, écoute, toi, l'homme, clic, il l'a formé, quoi. Mais il y a aussi une chose, les conséquences du péché. L'homme, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Frères et sœurs, quand Dieu parle, c'est un souffle de vie qui vient se déposer dans nos cœurs, frères et sœurs. Et la conséquence du péché, souvent en tant que chrétien, on aimerait bien recevoir la couronne de gloire, mais on oublie une chose. On doit d'abord, comme Jésus-Christ, porter notre croix. Et lui, avant de recevoir sa couronne de gloire, il a reçu une couronne d'épines. Et en lisant les Écritures, eh bien, verset 17, chapitre 3, il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. » Et regardez la conséquence du péché. « Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. » Avant le péché, les épines n'existent pas, les ronces n'existent pas. Et moi, je me disais, Seigneur, ça correspond à tout le message des Écritures, quoi. Vient le péché. Avec le péché, vient les épines et les ronces. Les épines qu'on utilisera pour faire la couronne de Jésus. Parce que le péché est entré dans le monde. Avant que le péché rentre dans le monde, il n'est aucunement question des épines et des ronces. Mais parce que tu as péché, la terre va te produire des épines et des ronces, et tu en mangeras de l'herbe des champs. Frères et sœurs, avant que vous puissiez recevoir la couronne de gloire en tant qu'enfant de Dieu, vous allez aussi devoir porter votre couronne d'épines, c'est-à-dire la persécution. Vous allez aussi probablement être rejeté par des êtres qui vous sont chers, par des frères, par des sœurs, par des parents, par des mères, par des pères, par des cousins, par des cousines. Mais c'est le prix à payer pour suivre Jésus-Christ. Et Jésus dit, « Heureux êtes-vous si vous êtes persécutés à cause de mon nom. » Frères et sœurs, rappelons-nous que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et que dans cette salle ce matin, s'il y en a qui n'ont pas encore fait ce pas de foi pour le Seigneur Jésus, qui sont encore dans leur péché, qui viennent à l'Église, mais qui ne vivent pas cette relation intime et personnelle avec Dieu. Eh bien, Pierre dit dans un de ses messages, Actes chapitre 3, verset 19, « Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Et c'est une opportunité que Dieu vous offre ce matin. Dieu veut que le sermon sur la montagne devienne une réalité dans votre vie, que vous soyez capable de le mettre en pratique, non pas par vos propres efforts, mais parce que Christ en vous, vit en vous, et qu'il vous donne la capacité de pouvoir mettre en pratique le sermon sur la montagne. Jean chapitre 1, verset 12 et 13, « Car à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus-Christ, qui l'ont reçu comme Seigneur, comme Sauveur, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas devenus enfants de Dieu selon la nature humaine comme on devient enfant d'un Père terrestre, c'est Dieu qui leur a donné une nouvelle vie. Frères et sœurs, Dieu, si mon ami, dans cette salle ce matin, tu n'as pas reçu encore cette nouvelle vie, Dieu t'offre de passer d'un royaume pour entrer dans un royaume qui est celui de la lumière, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Je vous invite à fermer les yeux, simplement courber la tête. On va terminer par une prière. Dans la parole, il est écrit dans le psaume 2, « Heureux tous ceux qui se confient en lui, car le salut se trouve auprès de l'Éternel. » Ce matin, c'est peut-être la première fois que tu viens à l'église. Ça fait déjà peut-être plusieurs fois que tu viens faire un tour dans cette église, que tu assistes aux différentes réunions. Et tu as peut-être ressenti que Dieu t'a parlé d'une manière toute particulière ce matin. Et Dieu parle à ton cœur ce matin comme Christ l'a fait quand il s'est adressé à la foule qu'il entendait à son époque. Et ce que Dieu veut à travers son message ce matin, c'est de faire de toi une nouvelle créature. C'est de faire de toi une nouvelle personne qui puisse avoir un nouveau début dans la vie. C'est-à-dire un nouveau commencement avec Jésus qui est vivant et qui veut agir encore, qui veut habiter dans ton cœur et qui veut agir encore à travers, dans ta personne ce matin. Je ne demanderai pas de lever la main, je ne demanderai pas non plus de manifester publiquement que tu prends une décision pour le Seigneur, mais là où tu es ce matin, je t'invite à faire simplement cette prière. Seigneur, ce matin j'ai entendu ton message, ton évangile, à travers lequel, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, que je suis perdu. Seigneur, je reconnais aussi que tu es venu chercher et sauver ceux qui sont perdus, et je suis du nombre, parce que tu me dis que tous ont péché. Ils sont privés de ta présence. Et ce matin, Seigneur, eh bien, je reconnais mes péchés et je veux te demander pardon. Pardon d'avoir vécu pendant si longtemps sans toi. Et Seigneur, merci ce matin de t'être révélé à moi à travers la personne de Jésus. Merci de l'avoir envoyé, s'être sacrifié sur cette croix et subir à ma place le châtiment que je méritais pour mes péchés. Merci pour cet agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Merci parce qu'il est non seulement mort pour mes péchés, mais il est aussi ressuscité, revenu à la vie, me garantissant ainsi que non seulement mes péchés sont pardonnés, mais aussi que j'ai la vie éternelle. Seigneur, ce matin, tel que je suis, je viens à toi et je veux te remettre tout entre tes mains. Merci, Seigneur, de m'accorder ton salut. Merci de m'accepter dans ta famille. Merci de m'avoir donné une nouvelle famille spirituelle qui est l'Église. Et Seigneur, je t'invite à devenir non seulement mon sauveur, mais aussi le maître de ma vie, afin que dorénavant, Seigneur, je puisse vivre comme toi tu le demandes. Amen. Je t'invite à vous lever. On va chanter un cantique.